Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs, en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus.
Radio Plus.
Et il est 11h passé de 1 minute sur Radio Plus et tout de suite, eh bien, on est bien sûr ensemble au salon autonomique à Lille Grand Palais tout au long de la journée. Dans quelques instants, eh bien, nous allons parler de la société Théo Thor Events, donc une société qui organise justement des spectacles, du divertissement pour les personnes âgées en situation de handicap ou atteinte de maladie. Donc ce sera d'ici quelques instants sur Radio Plus. Et puis on aura également d'autres stands à vous faire découvrir, des stands qui sont extrêmement nombreux hein, au salon autonomique. On n'aura évidemment pas le temps de couvrir l'ensemble des stands du salon, mais ils sont extrêmement nombreux. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous rendre au salon autonomique à Lille Grand Palais. L'entrée est gratuite, c'est jusque 17h aujourd'hui et on se retrouve juste après Orchestral Manoeuvre in the Dark avec Electricity. Nous sommes toujours en direct du salon autonomique à Lille Grand Palais pour vous faire vivre ce salon. Tout de suite, on va retrouver Julien qui est en compagnie d'Alexandre Thoraval de la société Thor Events.
Tout à fait, Jean-Philippe, Alexandre Thoraval, bonjour.
Bonjour Julien.
Alors, quelques mots pour nous présenter votre société, une EIRL.
Voilà, donc Tor Event, c'est une entreprise spécialisée dans le divertissement pour les personnes âgées, handicapées et malades. Donc c'est une entreprise qui propose des activités purement de loisirs et des activités ludiques qui permettent de progresser tout en s'amusant.
Comment est née l'envie de créer cette société ?
Alors, faut savoir que moi, je suis passionné par l'animation depuis que je suis tout jeune. Je suis reconnu moi-même handicapé maintenant depuis 6 ans. Donc les médecins ne savent toujours pas ce que j'ai, malheureusement. Quand j'étais en centre de rééducation, je me suis rendu compte qu'il manquait cruellement de moyens humains, mais aussi financiers concernant l'animation. Pour ma part, j'avais 2 heures d'animation par semaine. Et malheureusement, le reste du temps, j'étais livré à moi-même. Et quand on est livré à soi-même, on a tendance à se replier sur soi et avoir des idées noires. Pour ma part, j'ai fait 5 tentatives de suicide. Aujourd'hui, ça va mieux. Et je me bats contre la maladie. Mais toute l'énergie, en fait, du désespoir que j'avais par rapport à la maladie, je l'ai mis dans la création de mon entreprise. Je me suis tourné vers les autres et ça m'apporte un plus maintenant.
Alors, on parle d'animation dans des lieux de vie pour des personnes en situation de handicap, des personnes en perte d'autonomie, les EHPAD, des maisons de retraite, etc. Mais se mettre en place des animations à un coût, est-ce que vous avez l'impression, depuis votre passage en centre de rééducation, que les choses ont évolué de ce côté-là, qu'il y a de plus en plus de temps qui est accordé aux résidents de ces lieux de vie pour leur permettre de sortir de l'isolement ?
Alors, une petite précision d'abord, je ne fais pas que les collectivités et les organismes spécialisés.
J'allais y venir, vous travaillez aussi pour les particuliers, on en reparlera dans un instant.
Alors, concernant votre question, il y a malheureusement toujours très peu de moyens, on l'entend régulièrement dans les médias, moyens humains, moyens financiers. Les personnes, les organismes sont quand même très intéressés. Moi, pour ma part, pour contourner un peu ce problème, je fournis un service clé en main. Donc, j'apporte en fait tout le matériel nécessaire aux activités.
Alors, vous avez été interviewé par la presse locale pour mettre en valeur votre histoire et votre entreprise également. Et il y a quelque chose qui me frappe à la lecture de l'article. Vous dites, je vous cite, « Les personnes malades et handicapées, on en entend parler au Téléthon une fois par an et c'est tout ». Ça veut dire aussi que, y compris justement dans l'aspect loisir, dans tout ce qui peut leur permettre de sortir du quotidien, elles sont ignorées ces personnes aujourd'hui ?
Voilà, tout à fait. Vous avez bien résumé. Faut savoir que le handicap, c'est pas 2 jours par an, hein, comme on peut le voir pour le Téléthon. Le handicap, c'est toute l'année. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances. On souffre au quotidien. On est constamment jugé par les autres, malheureusement. Ça se voit encore aujourd'hui. On est en 2019, mais le handicap ne fait toujours pas partie de la normalité, entre guillemets, dans la société. Et ça me révolte et c'est pour ça que j'essaye de me battre contre tout ça à mon niveau et j'ai créé cette société également aussi pour lutter contre l'exclusion sociale.
Alors votre société propose des prestations clés en main. Quelles sont les différentes activités que vous êtes amené à proposer dans le cadre d'une prestation ?
Alors je m'adapte en fait aux besoins de chacun. Donc ça peut être des quiz, ça peut être des jeux adaptés aux personnes atteintes de handicap, donc des jeux en format adapté à tous, que vous pouvez faire en fauteuil roulant. Vous pouvez aussi faire des activités si vous êtes déficient visuel ou si vous avez des problèmes de mémoire. Je propose plein d'activités.
Donc ça c'est la partie ludique parce que vous cherchez aussi à ce que les personnes en situation de handicap puissent s'amuser, mais surtout qu'elles puissent progresser, recouvrir un petit peu de motricité aussi.
Voilà, donc je propose également des jeux sensoriels. Pour les personnes aussi atteintes d'Alzheimer, j'ai beaucoup de quiz, notamment tournés vers la musique, parce que j'ai remarqué qu'avec la musique, on arrivait à capter beaucoup l'attention des personnes qui ont une déficience au niveau de la mémoire.
Alors, vous proposez effectivement notamment des jeux qui sont adaptés. On a notamment un exemple dans votre plaquette d'un Scrabble dont les lettres sont de très grande taille, tout comme le plateau. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez créées vous-même pour développer aussi votre activité dans le cadre de ces jeux, par exemple ?
Alors déjà, tous mes quiz, je les ai créés moi-même. Ensuite, là, je me sers de support. Comme vous le voyez sur la plaquette, c'est des jeux que j'ai achetés. Je suis en train de créer, moi, mes propres jeux d'adresse. Donc, c'est des jeux d'adresse en bois. Et j'ai pour projet par la suite, c'est de créer ma propre plateforme dans le numérique pour proposer des activités virtuelles, en réalité virtuelle. Alors ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Donc j'ai beaucoup d'idées pour lancer cette activité, mais pour l'instant je cherche des partenaires qui seraient qui seraient susceptibles d'adhérer à ce projet.
C'est vrai que c'est un sacré défi de numériser et puis de rendre accessible au plus grand nombre dans les contraintes dont on dispose.
C'est un sacré défi, mais vous savez, j'ai une devise dans la vie, et c'est ce qui aussi m'a aidé à me sortir du handicap. C'est la devise qui est sur ma plaquette, qui dit « Les excuses sont les limites d'aujourd'hui, les moyens sont les solutions de demain ». Donc autrement dit, quand on veut, on peut.
Et c'est bien résumé, effectivement. Alors, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais on va voir ça plus en détail. Vous ne travaillez pas uniquement au service de la collectivité, uniquement au service des lieux de vie pour malades. On peut très bien faire appel à vos services lorsque l'on est une personne, un particulier isolé.
Voilà, tout à fait, parce que tout le monde n'a pas, alors j'aime pas le terme de chance, mais n'a pas la chance d'être en résidence spécialisée. Donc je me déplace également chez les particuliers, justement pour lutter contre l'exclusion sociale et capter le plus de monde possible.
Alors c'est une toute jeune société qui est aussi en développement. Quelles sont vos pistes de développement, outre la numérisation future? Quelles sont les pistes de développement pour l'année 2020 qui arrive tout bientôt?
Alors là, cette année, bon, ça a été un petit peu compliqué. Comme je vous l'ai dit, les budgets étaient déjà clos pour les organismes spécialisés. En 2020, on fait déjà appel à moi dans les EHPAD, notamment pour des prestations karaoké, parce que ça marche très très bien. En ce qui concerne les particuliers, j'ai élargi mon offre récemment, donc mi-novembre. Je propose maintenant des activités pour tout le monde, plus uniquement pour les personnes atteintes de handicap ou de maladie. Donc, vous pouvez faire appel à moi pour un anniversaire, un karaoké, mariage. Je me déplace vraiment et je m'adapte à tous les besoins.
Vous travaillez peut-être déjà aussi en mixant les populations, des valides et des personnes en situation de handicap, des rendez-vous intergénérationnels?
Tout à fait. Je peux pas mieux résumer que ça. Je cherche vraiment à lutter contre l'exclusion sociale. Je me suis vraiment spécialisé dans une partie de la population qui était mise de côté. Mais le but, effectivement, c'est de réunir tout le monde autour d'un moment convivial.
Les choses avancent aujourd'hui quand même dans le bon sens, même si elles n'avancent sûrement pas assez vite?
C'est sûr que ça avance pas assez vite. On parle de plus en plus du handicap à la télé et ça c'est vraiment une démarche positive. On met un peu plus en avant le handicap mais c'est pas suffisant. Et quand on voit par exemple les lois dédiées au handicap qui étaient censées améliorer la vie des handicapés, malheureusement, en tant handicapé je peux vous le dire, c'est pas suffisant et on n'y arrive pas.
Encore beaucoup de choses à faire, donc on l'a bien compris. Pour terminer, si on souhaite faire appel à vos services, comment fait-on?
Alors, vous pouvez me joindre par téléphone à mon numéro, donc qui est le 06 51 86 94 74. Vous pouvez également visiter mon site internet www.torevents.fr et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux @torevents sur Facebook.
Et bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Alexandre Toraval d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes fondateur de Tor Events, une société, une toute jeune société qui propose du divertissement auprès des personnes isolées, âgées, handicapées ou atteintes de maladies invalidantes. Merci à vous.
Merci à vous Julien.
Rejoignez Radio Plus sur Facebook. www.facebook.com/radioplus62. Radio Plus, Radio Plus, la fréquence de l'Artois.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. On the edge of paradise, every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire.
Eh bien voilà, ça s'est arrêté tout seul. 11h18 sur Radio Plus, on est en direct bien sûr du salon autonomique depuis Lille Grand Palais et donc un salon qui s'achève ce soir à 17h et tout de suite on va retrouver Lucie en compagnie de Lazare Leterrier qui est intervenant musical au sein de l'association La Puce à l'Oreille, une association qui a créé également une autre association qui s'appelle Bao Pao. Les explications c'est tout de suite en compagnie de Lucie.
Bonjour Lazare.
Bonjour.
Est-ce que vous, donc aujourd'hui, l'association qui est exposée sur le stand, c'est Bao Pao. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler?
Alors l'association, c'est La Puce à l'Oreille, et qui a été créée il y a 27 ans, 28 ans maintenant, par Jean Schmutz, voilà, musicien et informaticien. Et Bao Pao, c'est le nom de l'instrument de musique. Bao, qui veut dire baguette assistée par ordinateur, parce qu'on va jouer avec une baguette. Et Pao, la puce à l'oreille. Voilà. C'est donc instrument qui a été créé à la base pour les personnes en situation de handicap. Ça permettait d'avoir un accès à la musique sans apprendre le solfège et sans instrument. Donc on peut jouer avec une baguette, des capteurs, des grosses touches, des capteurs de pression qu'on peut jouer avec la bouche. Voilà. Donc c'est le but, c'est d'avoir un accès à la musique dans la mixité autour de cet instrument.
Alors vos instruments ressemblent à des sortes de cornes de fer avec une baguette qu'on passe, ça fait un peu chef d'orchestre.
C'est ça, on appelle ça des arcs qui sont composés de deux boules, une boule émettrice et une boule réceptrice, avec un laser qui remplace une corde, ce qu'on appelle la corde laser. Et le fait de venir la couper avec une baguette va déclencher un son qui est préprogrammé dans l'ordinateur.
Et pour moduler le son du coup?
Donc on va jouer sur le rythme ou on va jouer sur l'intensité. Plus on tape fort, plus ça va faire fort, plus on tape doucement, plus ça va faire doucement. Donc c'est l'avantage aussi de pouvoir arrondir la musique et faire des nuances sur les morceaux.
Comment est née l'idée de cet instrument de musique un peu particulier?
Alors l'idée, c'est donc Jean Schmutz, créateur de l'instrument, qui à l'époque était sa compagne, travaillait en institution et trouvait qu'il n'y avait pas d'accès à la musique pour les personnes en situation de handicap. Donc lui, donc ingénieur et musicien, très grand musicien, s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Il a réfléchi, il a travaillé, il en est sorti le premier Bao Pao, qui n'était pas du tout comme il est maintenant, qui a évolué, qui évolue encore. Donc, et puis voilà, donc c'est ce qui a permis de donner la musique, l'accès à la musique à ces personnes.
Est-ce qu'il existe des concerts avec le Bao Pao?
Alors, on fait surtout de l'événementiel, mais après, c'est le but, c'est de le faire découvrir, de jouer ensemble à la mixité. C'est vraiment un instrument d'interprétation et c'est le jouer ensemble. C'est musique pour tous, c'est le jouer ensemble. C'est le but premier de l'instrument de musique.
Quel est le public principal qui utilise l'instrument? Dans quels établissements vous intervenez?
Alors, il y a tout public. Depuis une dizaine d'années, avant, il était vraiment fermé dans les institutions. Et il y a une dizaine d'années, il s'est ouvert à tout public. Nous, on travaille, moi, en tant qu'intervenant musical, je travaille avec les RAM, relais à sciences maternelles, les écoles, les centres de loisirs, les EHPAD, les femmes, les MAS, et tout le secteur handicap. Donc, c'est vraiment tout public. Notre plus jeune a 3 mois, il joue en cosy avec les pieds. Et notre doyenne a 104 ans en EHPAD, donc c'est pour vous dire qu'il y a un grand panel de public.
Une tranche d'âge super étendue. C'est un instrument ludique aussi, en tout cas sa forme est ludique, peut-être un peu plus que le solfège. Est-ce que ça pourrait pas attirer des gens valides également?
Ah mais on joue aussi avec des gens valides, voilà. On peut le jouer à l'intuition, ou alors on peut le jouer sur partition. Il y a des partitions normales, on va décomposer un morceau, on peut le jouer dans son intégralité sur un arc. On peut le décomposer sur 2 arcs, sur 3 arcs ou sur 4 arcs. Et à ce moment-là, chacun va jouer sa partie. Et on va remonter un morceau. Et voilà.
Ça permet de composer un groupe composé d'instruments?
Complètement, c'est ça. Il va y avoir un guitariste, une batterie, un trombone.
On peut simuler n'importe quel instrument, c'est ça?
On peut simuler n'importe quel instrument, oui. Tous les instruments sont préprogrammés d'ordinateur. Nous, on peut les changer. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi des instruments inventés ou est-ce que ça pourrait être un projet?
Ça peut se faire, ouais. On peut, comme la harpe électronique, on peut peut-être retrouver le son et le rentrer nous en informatiquement dans l'ordinateur pour pouvoir le récupérer et jouer avec des sons de harpe.
Le Bao Pao, c'est le seul instrument inclusif que propose l'association La Puce à l'Oreille?
C'est le seul. Après, il existe d'autres instruments inclusifs, comme le métapiano qu'a conçu Jean-Henri, notre Jean, qui est très ami, qui est aussi à la base de la conception du Bao Pao il y a 30 ans. Donc il y a d'autres instruments, mais La Puce à l'Oreille, voilà, ne travaille que sur le Bao Pao. C'est un gros travail déjà.
Comment est amené à évoluer l'instrument?
il évolue tous les jours. Tous les jours là, au niveau logiciel, pour les personnes qui vont s'en servir, il y a Michel est informaticien qui s'occupe toute la partie logicielle. Donc il essaye de le rendre de plus en plus accessible, même pour les personnes en situation de handicap, pour qu'eux puissent s'en servir.
Le logiciel est compliqué d'utilisation ?
Il faut une formation. Il y a une formation de 3 jours, mais c'est pas compliqué, pas plus que ça. Il faut une formation, voilà. On peut pas, quelqu'un qui ne connaît pas le logiciel peut pas, c'est pas comme un ordinateur où on va chercher sur Google, voilà, il y a vraiment, c'est un logiciel spécifique au Bahou.
Alors vous parliez d'intervention tout à l'heure dans les institutions, dans les écoles, etc. Est-ce qu'on peut néanmoins, si on est un particulier qui a très envie de faire de la musique de manière un peu particulière, est-ce qu'on peut se procurer l'instrument ?
Non, on peut, nous on donne des cours, après on fait des ateliers nous, perso. Mais l'instrument est vraiment, vraiment réservé. Il y a tout un concept derrière l'instrument. C'est pas un jouet, c'est pas un instrument de musique qu'on va mettre à la maison, on va s'amuser, qui va rester dans un placard ou qui a pu servir après. Derrière le Bahou, il y a tout un concept, c'est vraiment. Voilà, il est vendu aux institutions, aux conservatoires, aux écoles, mais il y a le Bahou est vendu avec toute une formation. Donc ça engage du personnel, ça engage du monde derrière. Et voilà. C'est quand même, il y a un budget quand même, donc c'est pas un jouet.
C'est un instrument précieux en fait.
C'est précieux, ouais, quand même.
Est-ce que vous avez un site internet sur lequel on pourrait éventuellement peut-être trouver des productions, des informations ?
Complètement, il y a www.bao-pao.com, voilà, où il y a toute l'historique, il y a des vidéos.
Un site internet dédié à l'instrument.
Voilà, c'est le site de la puce à l'oreille.
Une expérience utilisateur peut-être aussi sur ce site ?
Complètement, il y a tout. Après, il y a la puce à l'oreille, @bao.com aussi, il y a plein de vidéos, plein de petites choses, et tout public. On peut découvrir le Bahou Pao aussi par ce site.
Et si on souhaite s'inscrire à des formations, avoir une expérience de cet instrument ?
Il y a Émilie Mascoli qui est la coordinatrice de la puce à l'oreille. Donc il y a un numéro de téléphone, je ne sais pas si on peut le donner.
Ah si, allez-y.
Voilà, qui est le 06 80 05 14 60. Voilà, on l'appelle et puis après, nous on est une trentaine d'intervenants musicaux sur la France. Et on l'appelle et elle va la coordonner par rapport si les gens sont dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, pour qu'on puisse intervenir.
Des sessions isolées les unes des autres, c'est ça ?
Voilà, il y a des sessions isolées, après il y a des formations de 3 jours où eux se déplacent et puis voilà, pour l'information, les gens appellent, il y a des devis.
Et un ordre de prix, peut-être ?
Pour un instrument ?
Non, pour une formation.
Ouais, ça dépend, parce qu'il y a des demi-journées découvertes, des journées découvertes. Mais voilà, nous on sait qu'en demi-journée découverte, il faut compter 120 euros la demi-journée découverte, entre 120 et 150 euros, ça dépend du public, ça dépend du nombre de personnes, voilà, il y a tout, voilà, mais on fait à la carte.
Et à titre informatif, pour qu'on se rende compte un peu du dispositif et de la valeur du dispositif, un ordre de prix de l'instrument et de son logiciel ?
Un instrument complexe en logiciel, il faut compter 10 000 euros avec la formation après.
C'est un sacré coup.
C'est pour ça que c'est pas ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas le vendre aussi au grand public, parce qu'il n'y a, voilà, a pas d'intérêt, vu qu'il y a un concept et toute une formation derrière. Donc une formation qui revient tous les 3-4 ans. Voilà. Comme le logiciel évolue tout le temps. L'instrument évolue tout le temps.
Donc je rappelle les différentes plateformes de contact pour le Bahou Pao, un instrument high-tech, on peut le dire. Donc le site internet www.bao-pao.com, la page Facebook Bao-Pao, le numéro de téléphone 06 81 05 14 60 et l'adresse mail lapuce-a-l'oreille@bao-pao.com. C'était Lazare Leterrier, intervenant musical à l'association La Puce à l'Oreille, qui elle-même a créé l'instrument Bahou Pao. Merci beaucoup, Lazare.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Merci beaucoup, Lucie, pour toutes ces explications sur le Bahou Pao, avec donc Lazare Leterrier qui nous expliquait tout cela. On est toujours ensemble sur Radio Plus depuis le salon Autonomie, 4e édition de ce salon autonomique Lille Europe. Et on va retrouver dans quelques instants, en compagnie de Julien, un autre intervenant qui est Vivien, il me semble. On va voir ça d'ici quelques instants. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est de retrouver Véronique Sanson avec de l'eau.
non.
Sur Radio Plus, c'était Véronique Sanson avec de l'eau. Et tout de suite, eh bien, on va retrouver depuis le salon autonomique à Lille Grand Palais, eh bien, Julien, qui est en compagnie de Vivien Laplane, qui intervient régulièrement en tant que conférencier sur la surdité. Et juste après, on retrouvera Lucie, qui nous fera en direct une démonstration de cet instrument dont on vient de parler, le Bao Pao.
Tout à fait, Jean-Philippe, avec Vivien Laplane, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez justement mené hier une conférence sur cette question de surdité, une conférence théâtralisée d'ailleurs. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Alors, en fait, c'était vraiment une conférence théâtralisée au secours chez un collègue sourd. J'étais en fait un seul sur scène où je jouais plusieurs personnages, en fait, pour apporter plusieurs regards sur l'accueil d'une personne sourde en entreprise.
Alors, cette conférence, vous l'avez construite autour de nombreux échanges, de vécus aussi et de choses que vous avez pu constater. Alors, quels sont les obstacles que peut rencontrer une personne sourde en entreprise ?
Bah, c'est surtout l'obstacle, c'est vraiment le regard des autres, le regard des collègues. C'est vraiment l'appréhension, les préjugés que peuvent avoir les personnes sourdes. C'est, tiens, une personne sourde égale langue des signes, alors que pas forcément, puisque moi je ne signe pas. Je la pratique un peu, mais pas régulièrement. Ou bien un sourd égale idiot, donc il faut lui parler un peu petit nègre, alors pas forcément. Donc voilà, il y a plein d'a priori comme ça qu'il faut un peu briser.
Donc beaucoup effectivement d'a priori, beaucoup de difficultés qui sont rencontrées. Est-ce que vous avez l'impression tout de même que il y a des évolutions qui sont faites pour prendre en compte ce handicap ?
Oui, il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup d'entreprises qui œuvrent en termes de, par exemple, de relais téléphoniques au niveau de la transcription écrite pour les réunions, qui mettent en place tout ce qui est boucle magnétique. Oui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation et pour faire connaître ces outils-là, et aussi pour faire comprendre que les interprètes en langue des signes, c'est aussi nécessaire pour que les personnes sourdes qui signent se sentent pleinement intégrées au sein de l'entreprise ou même au sein des collectivités.
Oui, parce que l'exclusion est un sentiment très fort chez les personnes sourdes.
Oui, ben, surtout que en fait, la surdité, en fait, les personnes qui sont soit malentendants ou devenus sourds, pour eux, c'est un handicap social. Dès qu'il n'y a pas communication entre deux personnes, dès qu'il n'y a pas communication, il y a isolement, il y a exclusion. À partir du moment où on met en place des outils de communication, la transcription, les mails, téléphone amplificateur, un traducteur, à partir du moment donné, en place un outil, eh ben, ça rétablit la communication, il y a moins ce sentiment d'exclusion.
Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours, parce que vous n'avez pas toujours été conférencier, auteur, intervenant, vous aviez une autre vie professionnelle par le passé?
Oui, tout à fait. J'ai exercé pas mal de différents métiers. Mon premier métier, c'était professeur pour enfants sourds. Bon, je n'ai fait que 3 mois. Après, j'ai été éducateur spécialisé, vraiment dans le milieu du handicap. Après, j'ai été documentaliste, scientifique, qui était une très mauvaise idée parce que je suis plutôt littéraire. Ensuite, j'ai été coordinateur de classe de découverte, aide à domicile. Et en fait, c'est à partir de différents types d'expériences, mauvaises expériences, que j'ai préféré créer ma propre entreprise.
Depuis combien de temps est-ce qu'elle existe, justement?
Ça fait exactement 1 an et demi, depuis juin 2018.
Donc, c'est tout jeune et vous avez un parcours très, très riche. Vous êtes sollicité, justement, pour intervenir, comme par exemple hier, dans le cadre de ce salon autonomique. Quels sont vos autres champs d'intervention? Est-ce que vous êtes sollicité par des entreprises, par le milieu scolaire, peut-être, pour sensibiliser aussi?
Je peux être sollicité par le milieu scolaire, oui, tout à fait. Même les grandes écoles, les collectivités territoriales. Oui, c'est vraiment tout un panel très, très large, en fait, qui sont concernés par la surdité. La surdité touche 6 millions de personnes, donc ce n'est quand même pas rien.
Effectivement, des chiffres qu'il est toujours bon de rappeler. Et puis, vous avez aussi, parmi vos talents, celui d'auteur, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Sourd et certain ». Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Ah ben, je peux vous le présenter, bien sûr. En fait, c'est une compilation de textes que j'ai écrit sur mon blog apprendreaécouter.com. Des réflexions, des témoignages, des conseils sur la vie quotidienne d'un sourd. C'est tiré de mon expérience, mais aussi des autres expériences.
Donc toujours quelque chose finalement d'assez collaboratif, au sens où vous ne vous contentez pas, entre guillemets, de votre propre expérience.
Non. Tout à fait, pour bien montrer la diversité en fait du monde des sourds. Qu'il n'y a pas que des sourds signants, qu'il n'y a pas que des sourds oralisants, mais aussi qu'il y a des sourds bilingues, c'est-à-dire ceux qui utilisent la langue des signes, qui parlent aussi. Voilà, c'est vraiment pour bien montrer le panel qui peut exister, que chaque type de surdité, chaque personne a son propre vécu.
La langue des signes, justement, vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne la pratiquez que très peu dans des situations, j'imagine, qui peuvent vous être utiles pour communiquer. Est-ce que vous trouvez que la langue des signes est quelque chose qui est encore très difficile à apprendre? Alors, non pas en termes d'apprentissage, puisque chacun a sa capacité d'apprentissage, mais en termes d'ouverture, justement, pour rendre cet apprentissage accessible. Parce que on ne sait pas forcément à qui s'adresser pour apprendre la langue des signes aujourd'hui.
Ah, c'est vrai qu'il faut vraiment s'adresser à des organismes de formation qui sont vraiment agréés. Parce que je compte dire que la langue des signes, c'est quand même une langue qui est importante d'apprendre et d'appréhender de manière vraiment très, pas conventionnelle, mais très précise comme l'anglais. On ne peut pas parler l'anglais n'importe comment. Voilà, c'est vraiment très, très précis, très réglementé. Et c'est vrai que pour ma part, je la pratique un peu dans ma vie quotidienne quand je suis fatigué, j'éteins mon appareil ou... en relation avec ma femme, quand il y a dans le bruit, on échange. Pour moi, c'est la langue des signes, c'est vraiment un outil complémentaire, vraiment parmi d'autres modes de communication. Mais pour moi, elle est vraiment essentielle à l'apprendre pour pouvoir pallier à des situations difficiles en termes de communication.
Vous aimeriez qu'aujourd'hui, on enseigne la langue des signes tôt, dans le milieu scolaire, par exemple?
Oui, moi je trouve que ça serait bien, parce que je trouve que ça permet d'ouvrir vraiment à la communication. Je crois que c'est avoir plusieurs outils de communication, ça permet de s'ouvrir encore plus. C'est comme apprendre l'anglais et l'espagnol. Et moi, je dirais encore plus la langue des signes, puisqu'il y a des sourds français de la langue des signes française qui ont besoin de communiquer en langue des signes. Et je trouve qu'on devrait d'abord apprendre la langue des signes et après on peut apprendre l'anglais. Mais en fait, pour moi, tout est complémentaire.
Tout est complémentaire, effectivement, mais voilà, il faut aussi ne pas hésiter à franchir la porte de ces centres qui vous initient à la langue des signes, ne serait-ce aussi que pour avoir peut-être rien que les rudiments, parce qu'on sait qu'apprendre la langue des signes de manière complète aujourd'hui, enfin, pour vraiment pouvoir communiquer avec un sourd, ça a un coût aussi qui est difficile parfois de financer.
Oui, non, c'est vrai. Mais moi, ce qui me semble important, ce que je voulais préciser, c'est que oui, pour apprendre la langue d'ici, mais ce qui est important, c'est de savoir quel type de communication la personne sourde veut avoir. La personne sourde n'est pas obligé de communiquer en langue des signes. Je trouve que c'est important de pouvoir...
Tous les sourds, surtout ceux qui ne sont pas muets, n'ont pas forcément l'envie de communiquer en langue des signes. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer.
Ah bah, complètement. Il y a les devenus sourds, des malentendants qui sont devenus malentendants sourds plus tard et qui préfèrent continuer à oraliser. Voilà, il y a des sourds qui refusent de communiquer en langue des signes parce que pour eux, ce n'est pas leur langue. Alors, je dirais plutôt des malentendants. Voilà, c'est... Et je pense qu'il faut vraiment faire attention au mode d'outil de communication que la personne sourde veut bien utiliser.
Et toujours être attentif à l'autre, effectivement, et ne pas imposer l'une ou l'autre des méthodes de communication. Alors, vous avez écrit votre premier ouvrage dont on a parlé, Sourds et Certains. Est-ce que ça vous a donné envie d'écrire d'autres choses ?
Oui, alors en fait, c'était mon premier ouvrage sur la sourdité. J'avais déjà écrit deux recueils avant. C'était des recueils de poèmes. Dont le premier, c'est Murmure de la brousse sénégalaise. Et le deuxième, c'était Le souffleur de mots. Et j'ai bien l'intention d'écrire un quatrième livre, le deuxième livre sur la sourdité, vraiment sur mon parcours professionnel.
Très bien, on suivra évidemment ça. Et on peut retrouver aussi tous vos textes sur votre blog www.apprendreaécouter.com. Vivien Laplane, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On rappelle qu'on vous retrouve justement avec votre livre que vous proposez sur le salon autonomique. Rappelez-moi le numéro de votre stand.
E54.
Et bien voilà, rendez-vous est pris au stand E54. Merci à vous, Vivien Laplane.
Merci, avec plaisir.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus.
Et on va retrouver à présent, depuis le salon autonomique à Lille Grand Palais, hein, toujours en direct de ce salon, on va retrouver Lucie qui est au stand de la puce à l'oreille.
Oui, donc je suis au stand avec les instruments de musique, donc Baopao. Je vais déjà un peu décrire ce qui m'entoure. Donc les instruments se présentent, comme on a dit tout à l'heure, sous forme d'arc de cercle en métal avec des boules. Qui les termine. Entre ces deux boules, il y a un laser. Quand je passe ma baguette entre les deux lasers, j'ai un point rouge. Tout à l'heure, Lazare Le Terrier, qu'on a eu en interview, me présentait les différents dispositifs. Donc, on a des capteurs qui se pincent, on a des capteurs qui se mettent dans la bouche, on a des capteurs qui se jouent au pied. On peut mettre les baguettes sur la tête ou tenir les baguettes dans les mains. Donc, ça fait vraiment un panel de capteurs assez impressionnant qui permet à toutes les personnes atteintes de tous les handicaps de pouvoir jouer à ces instruments-là. Donc je vais commencer à jouer et je vais donner mes commentaires entre-temps. On peut lancer la musique. Alors le principe, c'est de passer la baguette entre les deux capteurs. Le rythme du passage de la baguette donne le tempo. Là, je vais lentement.
Oui.
Et là, je vais plus vite.
Avec donc cette chanson, Bella Ciao.
On peut aussi donner moins de force au poignet pour donner moins d'amplitude au son. Après, ce que m'expliquait aussi Lazare, c'est qu'on peut décomposer le son avec toutes les arches pour décomposer les instruments, en fait, et permettre aux personnes de jouer des différents instruments. Après, j'imagine qu'il faut être coordonné au niveau du rythme pour ne pas qu'une cacophonie s'instaure.
Et donc, effectivement, on peut jouer séparément des instruments qui sont...
Exactement. Je peux choisir de jouer la basse... le violon, je crois que c'est du violon qu'on entend, la batterie, et on peut s'y mettre à plusieurs.
très très bien.
Donc l'instrument permet vraiment une possibilité de choses sur des musiques déjà prédéfinies. Après, j'imagine, Lazare, qu'on peut créer sa propre musique avec l'instrument.
Il y a des morceaux, voilà, pour les rentrer informatiquement, il faut les transformer. C'est du son MIDI qu'on transforme, qu'il faut rentrer dans l'ordinateur. Mais après la création, on peut le travailler sur les percus. On a des percus dans l'ordinateur qui nous permettent de jouer batterie latine. Donc là, oui, on se fait plaisir, on s'amuse sur la compo.
Et donc la composition, c'est forcément par ordinateur, vous disiez?
Voilà, tout le son passe par l'informatique, c'est obligatoire.
D'où la formation logicielle dont vous parliez tout à l'heure, assez complexe. Merci beaucoup, Lazare, pour cette démonstration et la possibilité que j'ai pu tester l'instrument. Merci.
Merci beaucoup, Lucie. Et merci également à Wefa qui était là pour la prise de son de l'instrument. Allez, tout de suite, on se retrouve d'ici quelques minutes, toujours en direct du salon autonomique à Lille Grand Palais. On écoute Jean-Jacques Goldman tout de suite avec « Quand la musique est bonne ».
Je
Et nous sommes toujours en direct du salon autonomique à Lille Grand Palais, hein, depuis ce matin à 10h, et on arrive quasiment au terme de cette matinée. On va retrouver tout de suite Lucie avec un nouvel invité qui va représenter la Klaus Company, donc une compagnie de danse contemporaine. Il s'agit de Pascal Cross.
Oui, donc une compagnie de danse contemporaine inclusive,
oui,
c'est ça?
Oui, tout à fait.
Comment vous faites?
Alors, comment on fait? J'ai 5 danseurs handicapés moteurs et 5 danseurs valides. Donc moi, j'ai la particularité de tout souvent de travailler en binôme, donc un danseur valide avec un danseur handicapé. Voilà, et on vient de fêter nos 30 ans d'existence.
Comment est née l'association?
En 1991, d'une rencontre de hasard, je ne sais pas si le hasard existe, et voilà, j'ai pu comme ça rencontrer le monde du handicap et j'ai découvert que c'était le chemin que j'avais envie d'explorer.
Et pourquoi la danse?
J'étais déjà danseur avant, j'ai travaillé comme en compagnie, après j'ai créé ma compagnie au départ qu'avec des danseurs valides, et puis ces rencontres ont fait que les choses ont changé en 91.
C'est difficile pour une compagnie mixte, donc valide et personne atteinte de handicap, de danser?
Je crois qu'il n'y a pas plus de difficultés que s'il n'y avait que des valides. Bien sûr qu'il y a des choses à ne pas faire, il y a des règles à connaître, puisqu'on est toujours... les duos n'existent plus, c'est des trios, puisqu'il y a le fauteuil qu'il faut s'approprier. Il y a des risques avec des fauteuils. Moi, je travaille plutôt avec des personnes qui sont en fauteuil électrique. Donc, il y a au niveau des manipulations, il y a certaines choses à ne pas faire. Voilà. Après, pour moi, je pense qu'il n'y a pas plus de difficultés. Il faut bien connaître les faiblesses et les richesses de chacun.
On prend en compte, du coup, le fauteuil pour créer la chorégraphie. Le fauteuil devient instrument pour danser, en fait.
Devient même un partenaire. Voilà. Ça devient des trios, parce que de toute façon, le fauteuil est totalement indissociable de la personne qui est dessus. Voilà, et donc le valide doit s'approprier l'outil. Ça devient un outil artistique, en tout cas.
Et la personne atteinte de handicap est forcément binôme avec un danseur valide?
Alors, pas obligatoirement, parce que c'est pas parce qu'on est inclusif qu'on doit travailler tout le temps en inclusivité. Donc il y a des parties où il n'y a que les danseurs valides, il y a des parties où il n'y a que les danseurs handicapés, et il y a des parties, bien sûr, au maximum ensemble.
Voilà. Est-ce que vous pensez que la danse contemporaine, quand elle est effectuée par des personnes atteintes de handicap, complète la danse des personnes valides?
Je pense que c'est des vases communicants. La richesse justement de la danse inclusive, c'est que bien sûr que le danseur handicapé va amener une autre dimension, et le danseur valide va aussi amener une autre dimension au danseur handicapé. Donc pour moi, ce sont des vases communicants, mais c'est toujours du plus. Voilà, parce que souvent on nous demande mais est-ce que c'est pas trop difficile, parce qu'ils ne peuvent faire que tourner, etc. Non, c'est la richesse, justement, c'est comme la richesse, le mélange des ethnies, des populations. Pour moi, voilà, c'est la même chose.
C'est une complémentarité.
Exactement.
On s'enrichit de l'expérience des uns et des autres.
Tout à fait.
Est-ce que vous donnez des galas?
Alors, la compagnie, nous, on est engagés par, on va dire, soit des municipalités, des salles de spectacle. Après, j'ai développé, parce que nous, on est sur la région bordelaise, donc j'ai développé énormément d'ateliers permanents, des ateliers ponctuels, des résidences. Donc oui, voilà, on développe au maximum des représentations.
Si on souhaite vous retrouver sur les réseaux sociaux?
Alors, on a un site, www.closcompagnie.fr, on a un compte Facebook. Voilà, c'est tout en réseaux sociaux.
Je rappelle que Klaus Company, ça s'écrit K-L-A-U-S. Compagnie comme une compagnie.
Exactement.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Pascal Cross. Je rappelle que c'était le fondateur de Klaus Company, une compagnie de danse contemporaine inclusive. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup Lucie. Voilà, on va se retrouver, nous, d'ici quelques minutes, juste après le Flash Info de Mini. Pour justement vous faire continuer de vous faire vivre en direct ce salon autonomique à Lille Grand Palais. On devrait retrouver incessamment sous peu, eh bien, Julien avec de nouveaux invités. En tous les cas, pour l'heure, eh bien, on va se retrouver juste après la pause pub et le flash info, donc à partir de 12h03 précisément, pour poursuivre ce direct sur Radio Plus. Et n'hésitez pas à vous rendre à ce salon autonomique qui se déroule aujourd'hui jusqu'à 17h.